Fabien Lecoeuvre, bonjour.
Bonjour.
Vous avez un CV long comme le bras, vous gérez la carrière posthume de Claude François depuis 92, vous êtes conseiller attaché de presse de Michel Polnareff, chroniqueur dans les années Bonheur, l'émission de Patrick Sébastien sur France 2 depuis combien de temps ?
Depuis 11 ans maintenant.
Et vous venez de publier l'histoire de la France en 100 chansons, on va en reparler. Mais France Info, vous le savez, c'est une radio d'actualité, un mot d'actu, où en est Michel Polnareff ?
Mais il va mieux, je l'ai eu là, il n'y a même pas une heure au téléphone, et il va beaucoup mieux. Alors bon, il n'est pas encore guéri, puisque une embolie pulmonaire, c'est quand même grave. Et il a encore, peut-être encore 3 ou 4 mois de convalescence. Ouais.
Alors j'explique pour, on en parle, il y a eu une polémique le mois dernier, il avait annulé un concert Salle Pleyel pour raison de santé. Diagnostic, vous l'avez dit, d'embolie pulmonaire. Or, la veille, il buvait, il a passé l'après-midi, ce que j'ai lu, au bar de l'hôtel Peninsula, et plus tard, il fêtait la sortie de l'hôpital au Champagne, au Trianon Palace de Versailles, où il logeait après son hospitalisation. Comment est-ce possible ?
Ben c'est possible, puisque l'alcool n'est pas interdit quand on fait une embolie pulmonaire, puisque ça permet la fluidité aussi du sang.
Waouh ! Voilà. Première fois que j'entends cette réponse.
Je suis devenu un peu un spécialiste de l'embolie pulmonaire, parce que j'ai tellement suivi le dossier de près que je peux vous en parler.
Michel Polnareff a contre-attaqué dans Paris Match et il a laissé paraître des photos de lui sur son lit d'hôpital, sous respiration artificielle. Est-ce que vous avez approuvé ou est-ce que même vous avez demandé cette communication ?
Non, c'est Paris Match qui était demandeur.
Pourquoi vous avez dit oui ?
On parlait beaucoup de... Ben parce qu'à un moment donné, on était obligé de donner une information sur Michel Polnareff qui ne pouvait pas parler lui-même. Il a quand même fait l'interview par téléphone. Et entre deux respirations, puisqu'il était sous assistance oxygène, tantôt oxygène, enfin voilà, ce qui est classique, il avait ça à peu près 6 ou 7 heures par jour.
Tout à fait autre chose, vous venez de publier l'histoire de la France en 100 chansons, c'est chez Hugo Images. C'est quoi l'idée du livre ?
Eh ben, l'idée, c'est l'idée de mon éditeur déjà, qui m'a dit, on va partir de la Révolution française jusqu'à aujourd'hui, et toutes les chansons qui ont accompagné les événements et la vie des Français durant, voilà, ces 250 ans.
Alors, je vais citer Göttingen en 64, Barbara, les divorcés de Delpech en 73, les Corans, Sex and Son, ouais, qui disait beaucoup à l'époque, Gainsbourg en 78, Mon fils, ma bataille, la chanson des Restos du cœur. Mais en revanche, pour un livre d'histoire, j'ai un reproche à faire, il y a quand même très très peu de chansons historiques. J'ai compté seulement 5 chansons du 18e siècle, et 3 chansons du 19e. Et pourtant, c'est des tubes. Hein.
Oui,
La Clairefontaine, Le Roi d'Agobert, Au clair de la lune.
Oui, mais j'ai mis ces chansons parce qu'elles étaient indispensables. Mais je voulais surtout accompagner la vie des Français sur notre histoire contemporaine.
Alors, on apprend des choses, ouais, tout le long. Qu'au clair de la lune, je l'avais raconté une fois, donc je ne vais pas le dire ici. J'ai fait un pourquoi. C'était une chanson licencieuse.
Coquine, bien sûr. Voilà. Double lecture.
On apprend que la Belle de Cadix, j'ai appris, était la maîtresse de Francis Lopez, était la compagne de Maurice Chevalier. Donc j'ai appris que Maurice Chevalier était cocu.
Alors qu'il avait une petite chambre, justement, Maurice Chevalier, une petite chambre d'étudiante, avenue Foch à Paris, et il se retrouvait là, en cachette, dans la chambre d'étudiant de Maurice Chevalier.
Et est-ce que Maurice Chevalier savait que la Belle de Cadix, c'était sa régulière ?
Ah, mais il était fou de rage.
Ah, donc il le savait.
Ah oui, il connaissait, il a eu connaissance de ça, bien sûr. Il était, mais fou de rage. Après, il détestait Francis Lopez. Hein.
Mais moi, je croyais que Francis Lopez, il préférait les garçons. Donc j'ai confondu avec Luis Mariano.
Oui, voilà. Mariano, lui, bien sûr, aimait beaucoup les garçons. C'était caché parce que c'était tabou à l'époque. Bien sûr. Francis Lopez m'a raconté un jour, et ils avaient l'habitude, dans les années 40 à Paris, de sortir dans les boîtes et de ramener des filles le soir chez eux.
Mariano et Lopez.
Voilà, séparément, bien sûr. Et ils aimaient beaucoup les femmes, tous les deux. Et puis un jour, dans sa propriété du Vésinet, Luis Mariano, le facteur, lui a amené le courrier tous les jours. Et un jour, un très beau facteur est arrivé et ils ont eu une histoire d'amour tous les deux, le facteur du Vésinet. Voilà comment Mariano a abandonné les filles et s'est mis à aimer les garçons. C'est une vraie histoire que m'a raconté Francis Lopez.
Est-ce que vous avez une histoire de chanson préférée ?
Alors, la chanson pour moi que je préfère, c'est Le Temps des Cerises, qui est la plus grande chanson populaire, la première en tout cas, mais surtout parce que l'histoire me plaît. C'est un garçon, Jean-Baptiste Clément, qui écrit une poésie en 1866, qui d'un seul coup n'a pas d'argent durant l'hiver 1870, 4 ans plus tard. Et en échange d'un manteau doublé de fourrure, pour passer l'hiver, il donne son texte, sa poésie, Le Temps des Cerises, à un garçon qui faisait de l'opérette, qui s'appelait Renard à l'époque, et lui échange ça contre son texte, ce manteau. Et je trouve que ça, c'est une belle histoire finalement, et un beau destin pour cette merveilleuse chanson.
Fabien Lecoeuvre avec nous, on se retrouve tout à l'heure. Fabien Lecoeuvre avec nous, grand connaisseur de la chanson française et de ses histoires, ça s'appelle L'Histoire de la France en 100 chansons, ça vient de sortir, non c'est sorti il y a quelques temps, chez Hugo Images. Alors j'ai compté, vous aviez écrit 52 livres depuis 91, c'est-à-dire un tous les 6 mois, avec des années fastes. En 2005, pas moins de 9 livres. J'ai fait la division, un bouquin tous les 40 jours. Comment vous faites techniquement ? Vous avez une équipe, vous avez des nègres.
Non, pas du tout.
On n'écrit pas un livre tous les 40 jours,
non,
c'est pas vrai.
Non, je ne sais pas comment vous faites votre calcul.
Bah, c'est très simple. J'ai compté En 2005, il y en avait 9.
Ouais, alors,
365 divisé par 9, 40.
Comme j'ai des livres qui remportent quand même un peu de succès,
ouais.
Donc il y a des rééditions de livres. Ouais. J'ai réédité cette année, par exemple, François Mitterrand. J'ai réédité...
Non, mais vous avez le droit de dire, j'ai une équipe qui bosse avec moi.
Non, alors absolument pas, puisque je suis le seul auteur de mes livres.
Ah bon ?
Non, parce que je ne suis pas comme toutes ces grandes célébrités qui évidemment font appel à des nègres, et puis après ils rajoutent leur signature et ils prennent le chèque surtout.
Vous êtes sûr de ce que vous dites ?
Ah, absolument certain.
Parce que les gens vous cherchaient des noix si c'est pas vrai.
Ah, mais je vous certifie sur l'honneur même.
Vous avez vraiment obtenu votre bac à 15 ans ?
15 ans et demi.
C'est très très précoce.
Oui, mais parce que j'ai sauté une classe, et puis j'ai surtout, je suis né en décembre.
Non mais il faut y arriver quand même.
Ben, ça arrive.
J'allais vous féliciter, mais ma question était la suivante. Pourquoi n'avez-vous pas poussé dans la voie des études ?
Après mon bac, j'ai fait 2 ans à la Chambre de commerce de Paris, dont j'ai le diplôme. Et puis après, j'ai mal tourné.
Non, je vais dire les choses clairement, ouais. Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans le showbiz ?
Ben, je trouvais ça formidable, c'est une vocation, je pense. J'avais un côté doué en relations publiques, donc je suis tout de suite rentré en maison de disques.
Alors vous êtes un personnage, vous avez beaucoup d'amis. Et vous n'êtes pas facile à cerner.
Et beaucoup d'ennemis aussi.
J'allais justement y venir, comment vous expliquez cela ?
C'est normal. Un jour, Claude Carrère, qui est un grand producteur de disques, m'a dit « Tu sauras que tu auras réussi, c'est au tout début de ma carrière, au nombre de tes ennemis. » J'ai trouvé ça, cette formule formidable. Et c'est vrai que si vous parlez avec tous ces gens, sans parler des hommes politiques, mais les artistes, les acteurs, les présentateurs de télévision, on sait qu'ils ont réussi au nombre de leurs ennemis, on sait.
Les hommes politiques, c'est normal, puisqu'il y a le camp adverse. Mais vous, pourquoi c'est pas la grande famille du showbiz ?
Non, ça n'existe pas. Ça, c'est pour les biographies, ça.
Ah bon ?
Non, et vous le savez bien.
Non, je le sais pas, parce que ça m'a vraiment frappé. Je veux dire, vous êtes spécialisé dans le business de la nostalgie, au point que Marianne avait fait un portrait de vous il y a 7 ans, rapportait que dans le métier, vous étiez parfois surnommé le croque-mort.
Oui, alors ça, c'était au début, parce que je m'occupais de Claude François il y a 24, 25 ans. Et puis alors, tout le monde se moquait de moi, parce que c'était un des artistes disparus, mais qui était tellement présent à la télévision et dans les médias qu'on se demandait s'il n'existait pas toujours. On m'affublait de ce nom-là, mais bon, c'était sympathique, il n'y avait rien de méchant, je pense.
Et aussi, vous enfin, occupiez de Claude François.
Oui, bien sûr.
De son héritage.
Alors, on me disait aussi que je faisais parler les morts, mais bon,
voilà.
Vous savez, alors après, on attaque les gens. Mais en même temps...
Vous êtes vraiment allé voir le père d'Elvis Presley pour faire vivre un héritage artistique ?
Absolument. Elvis Presley est à l'Amérique, ce que Claude François est à la France. Et donc, je trouvais que j'avais besoin de modèles et d'inspiration. Et je me suis vraiment inspiré du comportement et de la ligne éditoriale, en tout cas, de Vernon Presley.
Vous n'avez pas que des amis, mais aussi, vous n'avez pas votre langue dans votre poche.
Oui, mais c'est normal.
Parfois, vous taclez. Oui. J'en ai relevé une. Benjamin Biolès et Gainsbourg sans les tubes.
Oui, parce que sur LCI, on me posait la question, on me dit, vous aimez la nouvelle génération ? J'adore la nouvelle génération d'artistes, évidemment.
Ouais.
Hein. Et Benjamin Biolay, vous ne pas que c'est Gainsbourg ? Je dis, oui, c'est Gainsbourg, mais sans les tubes.
Et après, quand vous le recroisez, ça se passe comment ?
Tenez-vous bien, je n'ai jamais croisé de ma vie Benjamin Biolay.
À propos de vos ennemis, vous avez même dit pire. Vous avez dit, il m'arrive même de leur confier l'écriture d'un livre. Je les embrasse pour mieux les étouffer.
J'ai dit ça, moi ?
Ouais, vous avez dit ça à Marianne, 27 mars 2010.
Oh, c'est un peu...
Vous regrettez ?
Non, c'est un peu exagéré, surtout.
À quel ennemi vous avez filé un livre à écrire ?
Non, je me souviens, Pascal Sevran était mourant à un moment donné. Il était à Limoges, à l'hôpital de Limoges, et puis on s'appelait. Et puis, il voulait absolument que j'écrive un livre après sa disparition. Je trouvais ça un peu... J'ai dit, oh là là, ça va être mal être perçu par ce métier, par tout ça. Je l'ai quand même fait. Et puis, il est décédé, évidemment, 2 mois après, 3 mois après. Et j'ai pu sortir le livre, du coup, pratiquement... dans les 15 jours.
Attendez, il vous a commandé un livre posthume sur lui ?
Oui, c'est-à-dire que... Mais d'ailleurs, Éric Chardin, avant de disparaître, m'a appelé, il me dit « Qu'est-ce que tu vas dire dans mon oraison funèbre ?» Parce que j'ai écrit à peu près 45 ou 50 oraisons funèbres à l'heure où je vous parle. Et Chardin était préoccupé de savoir ce que j'allais dire, Éric Chardin, après sa disparition, il se savait condamné.
Attendez, et vous lui avez lu son oraison funèbre alors qu'il était vivant ?
Non, je l'avais pas encore écrite, parce que là, j'aurais pas osé. Mais simplement, j'ai pris les notes de ce qu'il fallait surtout dire. Donc vous voyez quand même, les artistes, en fait, quelque part, ils me détestent faussement, parce qu'ils m'aiment quelque part.
Fabien Lecoeuvre, avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Fabien Lecoeuvre, avec nous, attaché de presse et grande figure du show business, vous gérez la carrière posthume de Claude François, vous êtes conseiller attaché de presse de Michel Polnareff, et on vous voit dans Les Années Bonheur, l'émission de Patrick Sébastien sur France 2. C'est vrai que vous avez commencé par le porno ?
Oui, c'est vrai. J'ai 17 ans, j'ai fait des romans photos pour adultes.
Fait
trash, très trash. Hein.
Fait photographier ?
Non, j'étais acteur.
C'est pas vrai ?
Oui. Et puis j'allais faire ça en Angleterre. Et puis j'ai dû faire 117 couves de magazines qui étaient vendus, je précise, dans des sachets, tellement c'était crade. C'était vendu dans des sachets, dans les sex shops.
117 ?
Ouais.
Comment vous connaissez le chiffre par cœur ? Pourquoi c'est pas 115 ou 120 ?
Parce que j'ai les couvertures chez moi. J'ai quand même gardé une trace quand même, de tout ça. Je peux pas les sortir en même temps. Hein.
Le mot trace est mal choisi, mais vous comptabilisez tout ?
Les chiffres, ça me permet de sortir la mémoire. J'ai la mémoire par les chiffres. Si vous me donnez une date très précise, je vous sors un événement absolument qui est lié à cette date. Si je l'ai, bien sûr, enregistré, retenu.
5 juillet 62.
Qu'est-ce que j'ai fait le 5 juillet 62
Moi, je pensais que c'était un événement global.
Ah non, 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 non. Non, quand même, j'en suis pas là. Je suis pas
Alors, je vous le dire.
Un ordinateur.
Parce que le 5 juillet 62, je suis né, ça tout le monde s'en fout, et c'est la date de l'indépendance de l'Algérie. C'est mon jour de naissance, c'est très facile pour
Mais
moi.
Mais je vous ferai un beau truc et une belle oraison funèbre.
J'ai aucun mérite.
Ça rassure.
Est-il vrai, beaucoup moins joyeux, est-il vrai que vous êtes né aux côtés d'un frère jumeau qui est décédé à la naissance?
Exactement, absolument, tout à fait. Voilà,
Et est-ce que vous en êtes senti coupable? Beaucoup de jumeaux se sentent coupables d'être le seul survivant.
Alors, je ne me sens pas coupable, mais en revanche, je cherche mon frère. C'est-à-dire qu'à travers des amitiés, que ce soit des gens comme Laurent Luyat, comme Patrick Sébastien, comme Claude-François Junior, comme pourquoi pas des Jean-Luc Lahaye, des Michel Polnareff, enfin peu importe les artistes, je cherche quelque part un frère.
Est-il vrai que votre père vous interdisait de regarder les variétés à la télévision?
Oui.
Alors, c'est vrai ça?
Ah, ça c'est réel. Et alors quand il n'y avait pas de télécommande à l'époque, il
passait
à côté
du poste. Je vais vous dire pourquoi je vous interromps. Je vous interromps tout de suite. Parce que dans Marianne, je lis ceci. L'histoire semble être trop belle pour être vraie. Et il ne vous croit pas.
Eh bien, je vais vous dire pourquoi. J'ai une phrase que j'ai jamais oubliée de mon enfance. Mon père passait dans le salon, il y avait la télévision, il fermait le bouton, il disait « Monte dans ta chambre, faire tes devoirs, parce que c'est pas avec ces conneries que tu gagneras ta vie un jour. »
C'est vrai, il est pas vivant, votre père ?
Non, malheureusement, il est parti il y a 3 ans.
Donc il a vu que vous avez gagné votre vie avec ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Et j'ai eu une grande discussion un jour avec lui, évidemment.
Est-il vrai que c'est vous qui avez présenté les Toubifries au président Chirac ?
Ouais, lors d'un arbre de Noël du président de la République. Et je suis monté voir Jacques Chirac dans son bureau, parce que le bureau du président est toujours au premier étage de l'Élysée. Et avant, j'ai débriefé le président en compagnie d'un chef de cabinet. Et alors, Chirac me dit « Alors, là, je vais recevoir les 2B3 ». Et alors, je dis « Non, monsieur le président, c'est les « to be free », il faut dire. » Ah, « to be free ». Et je raconte la vie de Philippe, Franck, et voilà, les 3 membres. Et quand il descend les rejoindre, alors moi, on me fait sortir du bureau, je rejoins les « to be free ». Le président descend après, voilà, tout le monde se lève. Et il s'adressait aux « to be free », mais comme s'il avait, il avait vécu avec eux. C'est-à-dire qu'il avait retenu exactement ce que je lui avais raconté. Il était très doué, le président Chirac, très très doué.
Le président Sarkozy, il vous envoyait vraiment un motard chez vous pour récupérer vos nouveaux livres?
Oui, à chaque fois qu'il y avait le petit Lecoeuvre, ou alors il voyait un livre à la télé, alors il y avait un motard qui passait, et alors...
C'est que les gens vont hurler, parce que le motard, il est payé avec les impôts.
Oui, mais c'est un grand fan de chansons françaises. Alors moi, Sarkozy, après, m'avait dit, il avait acheté des disques quand il était petit, comme Rock Collection, Sylvie Vartan, il a acheté Paul Naref, il a acheté C'est Jérôme. Bon, moi, j'ai jamais fait de politique, mais en même temps, ce sont des gens comme nous, ils guérissent pas de leur enfance, on le sait bien.
Je reste au chapitre des présidents. Est-il vrai que de 86 à 89, François Mitterrand, président, vous invitait pour connaître les potins du showbiz?
Oui, toujours à l'occasion de l'arbre de Noël et à l'issue de cet arbre de Noël de l'Élysée.
Une fois par an. Ah, mais vous ne l'avez pas vu pendant 3 ans?
Non, je le croisais régulièrement quand même. Et à l'issue...
Je veux dire, ce qui m'intéresse, ouais. Il paraît que ce qu'il voulait savoir de vous, c'était qui couche avec qui.
C'était exactement ça. Et alors, pendant les déjeuners comme ça, du midi qui se terminait à 16h30, je me demandais ce qu'il avait un truc à faire l'après-midi, il est le président. Je me disais quand même, on est président de la République. Alors il voulait savoir, alors je racontais si Nathalie Baye avait quitté Johnny Hallyday, si Gene Monson était toujours avec Richard Berry, enfin les potins de l'époque. Il frottait ses mains comme ça sur la table, comme ça devant. Il adorait ça. Il a été finalement, quelque part, François Mitterrand, mon premier spectateur.
Merci beaucoup Fabien Lecoeuvre d'être venu nous voir ici, à France Info.
C'est toujours un bonheur.